Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Les entreprises et les travailleurs ne sont pas des marchandises, le cardinal Turkson l'a rappelé devant les participants au premier congrès de l'UNIAPAC Afrique qui se tient actuellement à Yaoundé au Cameroun. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Un magazine en partie consacré aux femmes victimes de nombreuses exactions, notamment en République démocratique du Congo et en Afghanistan. Éclairage dans quelques instants. Vous entendrez aussi dans cette édition un évêque irlandais. Monseigneur Brendan Lee réagit après l'adoption par les députés irlandais d'une loi autorisant l'avortement quand la vie de la femme est menacée. Gros plan également sur une initiative en faveur de la paix en Syrie. Une messe a été offerte pour le peuple syrien en la cathédrale de Westminster à Londres. Bienvenue dans ce magazine. Patron chrétien d'Afrique, dirigeant chrétien d'Afrique, lève-toi. C'est le thème du premier congrès de l'UNIAPAC Afrique, l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprise, qui se tient à Yaoundé au Cameroun du 11 au 14 juillet. La rencontre rassemble des dirigeants chrétiens d'entreprises publiques et privées, des hommes d'affaires, des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des universitaires, mais aussi des représentants religieux et politiques, ainsi que des membres d'organisations internationales. Le culte d'ouverture a été présidé jeudi par le pasteur Isaac Betomenega, président de l'Église évangélique du Cameroun. L'ouverture solennelle a eu lieu dans la matinée de vendredi au palais des congrès de Yaoundé. Parmi les premières interventions, celle du cardinal Peter Turkson, le président du conseil pontifical Justice et Paix, a rappelé quelle était la vocation du dirigeant d'entreprise et présenté un livret à l'attention des hommes et femmes d'affaires. Bernard de Cotigny.
Dans un monde de plus en plus globalisé, et alors que les changements culturels ont entraîné un individualisme accru, c'est un guide qui est proposé aux hommes et femmes d'affaires, une boussole pour ainsi dire, pour les guider dans leur prise de décision en proposant des orientations pratiques en matière d'éthique. Dans ce livret, il est question d'une vie porteuse de sens qui permet aux responsables d'entreprise de s'ouvrir à la volonté de Dieu et pas seulement à sa propre volonté, dans les décisions quotidiennes d'une vie ordinaire, ce qui donne la capacité de partager les biens communs et de bâtir des communautés. L'Église, qui témoigne sans équivoque de l'intérêt grandissant qu'elle porte au monde des affaires, offre ainsi sa contribution en se référant à des principes de la doctrine sociale de l'Église. L'accent est mis sur la logique du don, qui permet d'aiguiller la logique du marché vers le bien de tous, qui humanise et civilise les entreprises, mais aussi sur le principe de subsidiarité. Sa mise en application peut jouer un rôle crucial pour promouvoir l'initiative, l'innovation, la créativité et un sentiment de responsabilité partagée dans les entreprises. Ce document auquel ont collaboré un groupe international de 15 dirigeants d'entreprise, gestionnaires, chercheurs et éducateurs, s'articule autour de trois concepts, voir, juger et agir, que le cardinal Turkson développe ainsi. Voir la situation clairement, juger à partir de principes qui promeuvent le développement intégral des personnes et agir de façon à mettre en pratique ces principes à la lumière des circonstances particulières de chacun. Les dirigeants d'entreprise sont donc appelés, avec le soutien de l'Église, à relever les défis du monde non pas avec crainte et cynisme, mais avec les vertus de la foi, de l'espoir et de l'amour, à poser aussi des gestes qui démontrent que la foi et les affaires peuvent travailler de concert et que le profit peut être compatible avec le bien commun.
On reste sur le continent africain avec ce cri de détresse face aux nombreuses exactions dont sont victimes les femmes en République démocratique du Congo. 20 ONG du Nord et Sud Kivu ont uni leurs voix pour dénoncer les violences contre les femmes. Ces organisations ont proposé jeudi à un comité de l'ONU leur propre rapport sur les discriminations subies par les femmes, un document alternatif à celui proposé par le gouvernement congolais et examiné le même jour par le comité. Dans ce rapport, or, les ONG dénoncent des luttes pour le contrôle des ressources naturelles, cause majeure des violences faites aux femmes dans le pays. Des violences sexuelles dont sont victimes depuis plusieurs décennies de nombreuses femmes en temps de guerre comme en temps de paix. Elles n'ont cessé d'augmenter depuis le début du conflit entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les ONG font également état de violences domestiques, y compris de viols conjugaux. Un constat dramatique 10 ans après l'adoption du protocole de Maputo, le 11 juillet 2003, qui renforce la protection des droits des femmes en Afrique. Nous en parlons avec Mathilde Mouindo, directrice du centre OLAM pour les droits des femmes victimes d'agressions.
Il s'agit de terroriser, d'humilier la population, en sachant que la femme a un grand rôle à jouer, et donc en neutralisant toute la population et à s'occuper de la femme. On sait que c'est toute la communauté qu'on met à genoux. Bien sûr, une femme qui est prise par les groupes armés, une fois qu'elle est amenée dans la forêt, et tout ce qu'elle subit comme torture en plus d'être esclave sexuelle, vous comprenez que cette femme, elle est détruite. Son réinsertion dans la communauté pose problème du point de vue culturel, mais aussi du point de vue psychosocial et même économique. Elle est devenue presque le pilier de l'économie familiale. Quand elle est malmenée comme ça, violée, torturée, blessée, elle est affaiblie. Elle ne sait plus faire tout le travail qu'elle devait faire pour sa famille. On voit vraiment que ça affecte sa famille et ça affecte aussi toute sa communauté.
Mais il y a aussi les violences domestiques.
Nous sommes en train justement d'y travailler parce que nous constatons qu'au moins il y a une prise de conscience chez les femmes de dénoncer aussi même ces violences, toutes ces violences domestiques qui sont même aussi culturelles par rapport au traitement réservé aux veuves. Toutes ces violences-là, nous les dénonçons aussi pour qu'enfin on puisse faire justice. Mais nous privilégions l'éducation et la sensibilisation parce que nous savons qu'il y a aussi et les femmes et les hommes qui ignorent leurs droits et surtout les droits de la femme. Si on les dit que les deux, on crée un dialogue, on crée des échanges et on arrive à une meilleure compréhension et respect des droits des uns et des autres.
Mathilde Mouindo, interrogée par Audrey Radondi. C'est parce qu'elle était publiquement engagée pour le droit des filles à être scolarisées au Pakistan que Malala Yousafzai a risqué sa vie. Victime d'une attaque des talibans dans la vallée de Swat en octobre dernier, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur d'un bus scolaire, la jeune pakistanaise, soignée en Grande-Bretagne, œuvre aujourd'hui en faveur de la scolarisation des enfants dans son pays grâce à un fonds créé à son nom. Elle s'est exprimée ce vendredi, jour anniversaire de ses 16 ans, depuis le siège des Nations Unies à New York pour prendre la défense des millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas accès à l'éducation primaire. Au Pakistan, plus de 5 millions d'enfants ne vont pas à l'école primaire, dont environ 3 millions de jeunes filles. De l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, les femmes sont là aussi victimes de nombreuses discriminations et violences. Sous le régime des talibans de 1996 à 2001, elles ne pouvaient aller à l'école, travailler ou avoir une quelconque activité publique. Aujourd'hui, les pressions de la communauté internationale et la présence des soldats de l'ISAF leur garantissent ces droits, mais elles redoutent une radicalisation de la société afghane une fois leur retrait en 2014. Certains signes expliquent leurs craintes. Il y a d'abord les crimes dont on les accuse et les punitions qu'elles subissent, alors que de plus en plus d'Afghanes sont jetés en prison pour avoir tenté de fuir leur foyer. Écoutez le témoignage de Shekeba Hachemi, née à Kaboul et exilée en France depuis 1986. Depuis 10 ans, à la tête de l'association Afghanistan Libre, elle œuvre pour l'ouverture d'écoles pour les jeunes filles et défend le droit des femmes.
C'est toute forme de violence au niveau de la famille, du foyer. Alors, on est parti du mariage forcé, des très très jeunes filles mariées à des très vieux monsieur qui presque achètent la jeune fille à la famille qui meurt de faim. Après, cette femme mariée, elle peut subir toute la journée le travail forcé, elle peut suivre toutes les formes de violence conjugale. Ça peut être aussi une femme qui subit la violence tout simplement parce que sa fille a une vie un peu plus légère, c'est-à-dire que le compte dira-t-on du voisin qui n'est pas content, de l'oncle qui n'est pas content, tout tombe en fait sur la femme. Ou alors, tout simplement, un autre exemple, une femme qui trouve un travail dans le village et qui va sortir pour apporter de quoi faire manger à ses enfants et que le mari rentre violent parce que lui, il n'a pas de travail et que c'est la misère et qu'il ne supporte pas le regard de l'entourage parce que sa femme travaille, donc elle va subir en plus la violence. Ça, c'est le cas le moins pire. Après, vous avez un peuple analphabète reculé dans les fins fonds des villages où une femme, c'est comme une bête. Ça se vend sur certaines places de marché en Afghanistan comme une vache ou comme une chèvre. Et malheureusement, c'est ça la réalité des femmes afghanes aujourd'hui.
Pour en revenir à ces femmes qui fuient, quand elles le font, est-ce qu'elles ont un espoir ? Est-ce qu'il existe, par exemple, des centres pour les accueillir ?
Non, je pense qu'il faut que vous mesuriez une chose, c'est que l'Afghanistan, une femme qui sort de chez elle, elle n'a absolument aucun recours. C'est comme un suicide, en fait, pour elle. Il n'y a pas de maison d'accueil, et ça veut dire quoi aussi, ces foyers d'accueil ? Ça veut dire qu'il faut que ce soit à vie. Parce que si elle part de sa maison et de son village, c'est comme si c'était la honte sur tout le village et sur toute sa famille. Et si même si elle revenait, ça veut dire qu'elle serait assassinée par l'entourage, comme on a vu des cas de lapidation et des cas d'assassinat. Donc elle n'est absolument pas soutenue par personne. Le gouvernement ne fait rien. La société civile n'est pas assez développée. Les organisations internationales, malheureusement, ont une très mauvaise connaissance de la société afghane. Donc il n'y a pas ce genre de foyer. Il n'y a pas de suivi aussi. On crée quelque chose, on sait très bien que cette ONG peut-être va partir l'année prochaine ou dans 2 ans parce qu'il n'y a pas de financement, donc ça veut dire que cette femme se retrouvera où ? Donc il n'y a aucune structure, c'est comme partir de chez elle, c'est vraiment une forme de suicide pour ces femmes.
Est-ce que les pères de famille acceptent ou ont envie que leur fille aille à l'école ?
Bien sûr, il y a des dizaines de provinces et de villages où les pères de famille, les grands-pères sont tellement fiers de vous montrer le bulletin scolaire de leur petite fille. Et je pense que c'est par là aussi qu'on arrive à changer les mentalités, par les pères qui sont aussi fiers d'envoyer leur petite fille à l'école. Ces femmes-là, ce seront aussi les femmes libres de demain. Et c'est pour ça aussi que travailler dans l'éducation de manière continue et pérenne, pour moi, c'est exactement le même degré de priorité qu'un programme alimentaire quand une population meurt de faim. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que depuis 15 ans, je me bats pour l'éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, où on me dit qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les écoles d'Afghanistan libres vont être fermées, vous ne faites plus rien parce qu'en 2014, la communauté internationale part. Moi, je me dis non, au contraire. C'est maintenant que l'Afghanistan est à un moment charnière. C'est maintenant, plus que jamais, même si on en parle beaucoup moins de l'Afghanistan, qu'il faut soutenir ce peuple et qu'il faut soutenir ses filles. Parce que je vais vous dire une chose très simple et terrible. Si la communauté internationale part, que les talibans reviennent, comme ils reviennent déjà par les villages frontalières au Pakistan, non seulement ils sont terribles parce que c'est le régime taliban Al-Qaïda, mais en plus il y aura le sentiment de vengeance vis-à-vis des hommes et des femmes qui ont collaboré avec la communauté internationale. Et en plus de ça, le gouvernement en place ne sera même plus vigilant puisqu'il n'y a plus la présence internationale. Donc on n'est plus du tout jugé pour la bonne conduite vis-à-vis des femmes. Donc c'est vraiment la porte ouverte à tous les excès. Et moi je m'inquiète plus pour les femmes parce que malheureusement, que ce soit après une révolution, que ce soit après les guerres, que ce soit pendant la période de crise économique, ce sont toujours les femmes qui sont les premières cibles.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Les députés irlandais ont adopté une loi autorisant l'avortement si la grossesse constitue un risque réel et substantiel certifié par les médecins pour la vie de la mère. C'est un peu avant minuit jeudi soir que la chambre basse du Parlement a adopté cette loi par 127 voix contre 31 après des discussions marathon portant sur 165 amendements. Le texte doit maintenant être avalisé par la chambre haute du Parlement où le gouvernement détient la majorité. L'Église catholique avait exprimé son opposition dès le lancement de ce projet de loi fin 2012. Les explications de Marie Duhamel.
En octobre dernier, la mort d'une jeune femme des suites de sa fausse couche, les médecins ayant refusé de la faire avorter, avait suscité une vague d'indignation en Irlande. Le Premier ministre avait alors accéléré le processus législatif sur l'avortement. Il est maintenant donc autorisé si et seulement si la grossesse constitue un risque réel et substantiel pour la vie de la mère, un risque certifié par les médecins. Les 4 archevêques catholiques d'Irlande ont exprimé leur opposition à cette loi. Monseigneur Leahy, l'évêque de Limerick.
L'Église, naturellement, son devoir, c'est de promouvoir le bien commun. Nous sommes vraiment préoccupés par le fait que l'avortement soit introduit dans l'appareil législatif. C'est la première fois que cela arrive en Irlande. Les gens, bien sûr, disent que c'est très limité, mais on sait quand on regarde les pays du monde entier qu'une fois qu'on introduit l'avortement dans la loi, la situation s'aggrave dramatiquement. On est très inquiets pour les enfants à naître.
Le texte doit encore être avalisé par la Chambre haute du Parlement, une question de forme, puisque le Premier ministre y a la majorité. Y a-t-il donc des recours possibles pour l'Église, Monseigneur Leahy ?
Notre préoccupation principale, c'est de défendre la vie, et on continuera à se mobiliser. C'est là où nous devons nous situer. Nous défendrons toujours la vie. Après, On verra quelles seront les interprétations faites de cette loi. Certains parlementaires affirment qu'il y a un doute sur la constitutionnalité de ce texte. Je pense que beaucoup d'Irlandais voudront savoir où cela conduira.
Ce texte divise en effet la société irlandaise au Parlement et dans la rue. La semaine dernière, 35 000 personnes défilaient encore à Dublin pour s'opposer à cette loi.
Les évêques d'Angleterre et du Pays de Galles appellent une nouvelle fois à prier pour la population syrienne, prise en étau dans un conflit interminable qui oppose l'armée fidèle au président Bachar al-Assad aux forces d'opposition. Les catholiques sont encouragés à intercéder pour leurs frères souffrants et à leur offrir une aide concrète de quelque manière que ce soit. Les évêques invitent également à prier pour les associations et organisations humanitaires qui viennent en aide aux réfugiés et déplacés syriens et pour les décideurs politiques, afin qu'ils œuvrent pour une résolution pacifique de ce conflit meurtrier. Une messe a par ailleurs été offerte pour le peuple syrien à la cathédrale de Westminster à Londres ce vendredi. Elle a été célébrée par Mgr Vincent Nichols, président de la conférence épiscopale anglo-galloise. Harry Agopian, avocat conseiller de la conférence des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles pour le Moyen-Orient et le dialogue interreligieux, s'attarde sur le sens de cette initiative.
Le premier but, c'est bien sûr la prière, la solidarité, et puis c'est aussi l'action. Donc, dans le sens de l'action, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut hausser la voix, on peut parler un petit peu de ce qui se passe en Syrie, de demander, d'encourager les pays d'être un peu plus proactifs, de penser un peu plus sincèrement et un peu plus scrupuleusement aux moyens pacifiques et iréniques de trouver une solution à cette crise qui est vraiment violente et effrayante. Mais en même temps, il y a aussi l'aspect humanitaire de cette crise qui sévit pas seulement la Syrie, mais malheureusement, et c'est là la peur que j'ai moi, toute une région.
Vous évoquiez à l'instant l'implication des autres puissances, des autres États, le rôle qu'ils devraient avoir dans la résolution de cette crise, à savoir créer des conditions favorables pour un cessez-le-feu, pour un vrai dialogue entre les différentes parties. C'est une tâche à laquelle ils ont failli, selon vous ?
Effectivement, parce que les pays, les puissances, la Russie, les USA, la communauté européenne, l'Iran, les pays du Golfe, ma foi, tous les pays qui peuvent quand même aider à résoudre ce conflit, il me semble qu'ils n'arrivent pas à trouver un point commun, un accord entre eux, parce que finalement, c'est des jeux géostratégiques qui se jouent en Syrie, et il n'y a pas, selon moi, la bonne volonté et la bonne foi de trouver quand même une solution. Et ce qui est navrant, ce qui est très triste, c'est que alors que le monde joue avec la politique géostratégique, il y a tout un peuple syrien qui en souffre les conséquences. C'est un cri de désespoir d'une église en Angleterre qui veut dire que il faut redoubler les efforts, il faut essayer davantage de trouver ces points communs et de ne pas jouer ce jeu politique en même temps qu'un peuple se voit détruire.
Un entretien réalisé par Manuela Afigi. Avant de clore cette édition, sachez que le promoteur de justice du Vatican, par une ordonnance datée du 9 juillet, a décidé de geler les fonds déposés au IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, au nom de Mgr Nuncio Scarano, arrêté le 28 juin dernier et qui fait l'objet de deux enquêtes de la justice italienne. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Le père Federico Lombardi précise que les autorités du Vatican continuent à enquêter sur des transactions suspectes. L'enquête pourrait être étendue à d'autres personnes. Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre site internet www.radiovaticana.va. C'est la fin de cette édition. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivie.